إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. D'après Abi Ya'la, Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a certes prescrit la bienfaisance en toutes choses. Ainsi, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. Et lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement. Que chacun aiguise sa lame et qu'il tranquillise sa bête. » Rapporté par Muslim. Ce hadith, mes frères, il est donc rapporté par Shaddad ibn Aws, radiyallahu ta'ala anhu, qui est Ansari, qui fait partie des savants des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il rapporte donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a certes prescrit, c'est-à-dire qu'il a enjoint et qu'il a ordonné la bienfaisance en toutes choses. » C'est-à-dire que la bienfaisance, elle est d'ordre général et elle n'est pas limitée à une chose particulière de la vie. Et la bienfaisance, elle est de différentes sortes, comme on le verra après, Inch'Allah, lors de l'énoncé des bénéfices. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite donné deux exemples de cette bienfaisance qui nous est ordonnée en toutes choses. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ainsi, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. Et lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement. » Et quelle est la différence entre ces deux exemples donnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la différence entre le fait de tuer et le fait d'égorger? La différence est qu'une bête tuée, elle n'est pas licite à la consommation, contrairement à une bête égorgée qui est licite selon les conditions que l'on va citer, Inch'Allah ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous adresse donc un ordre dans ce hadith. Et il nous dit, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. C'est-à-dire que si vous devez tuer, par exemple, une bête nuisible, comme un scorpion, alors tuez-le convenablement, sans le faire souffrir, car il n'est pas permis de le faire souffrir. La religion de l'islam, elle ordonne à l'homme la bienfaisance en toutes choses, même lorsqu'il tue une bête nuisible. Il ne doit pas la faire souffrir. Même si tu tues un scorpion, même si tu tues un rat, ou même une mouche ou un moustique, tu ne dois pas le faire souffrir, mais tu dois le tuer convenablement. D'ailleurs, c'est pour cela que les savants, ils ont interdit l'utilisation de certains pièges contre les animaux ou les insectes nuisibles, comme ceux où l'animal reste collé jusqu'à mourir de faim ou de soif, comme les rouleaux qu'ils vendent dans les commerces pour les mouches par exemple, ou encore la colle qu'ils vendent pour attraper les rats. Tout ceci est interdit car cela s'oppose à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. L'utilisation de ce type de piège, elle n'est permise qu'à une condition, c'est que tu ne t'en serves que pour attraper l'animal nuisible. Et qu'une fois que tu l'as attrapé, alors tu le tues, mais tu ne l'abandonnes pas collé sur ce piège jusqu'à ce qu'il meure de faim. Car ceci s'oppose à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Et lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement. » Ceci concerne donc les bêtes licites à la consommation. Le sacrifice, il doit donc être fait de la meilleure manière. C'est pour cela qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Que chacun aiguise sa lame, c'est-à-dire la lame de son couteau. » Il doit l'aiguiser de sorte à ce qu'elle soit bien tranchante et que le sacrifice il soit rapide et qu'il tranquillise sa bête. C'est-à-dire qu'il ne la brusque pas, qu'il ne la tape pas au moment de l'égorgement, il ne la retient pas longtemps lorsqu'il la met à terre, il ne la fait pas attendre, mais il s'empresse de l'égorger et il fait cela rapidement afin qu'elle soit apaisée et se délasse. Et ceci fait partie des bienfaits de notre noble religion qui a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Après cette explication concise du hadith, on va mentionner quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, ce hadith met en évidence la miséricorde et la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Car Allah nous a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre bienfaisance. Il se passe de l'ensemble de l'univers. Mais le profit de cette bienfaisance, à qui revient-il? Il revient au serviteur lui-même. C'est nous qui profitons de cette bienfaisance les uns envers les autres si nous nous soumettons tous à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'ordre d'être bienfaisant en toutes choses. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, c'est-à-dire qu'il l'a ordonné comme on a dit. Il incombe donc aux musulmans de faire preuve de bienfaisance. Et comme je vous l'ai dit, cette bienfaisance, elle est de différentes sortes. La première sorte, c'est la bienfaisance entre le serviteur et son seigneur. Et ceci est le plus haut degré de la religion. Comme on l'a vu dans le deuxième hadith, le hadith de Jibril, alayhi salam. Cette bienfaisance, elle consiste à ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors certes lui te voit. Le musulman, il doit donc constamment se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il doit donc lui vouer peur et espoir, de sorte à ce que tu accomplisses les obligations ainsi que les choses recommandées, et que tu délaisses les interdits ainsi que les choses reprouvées. Et cette bienfaisance-là, elle consiste en réalité à parfaire ton adoration. À parfaire ton adoration parce que tu es conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Donc tu l'accomplis de la meilleure manière. La deuxième sorte de bienfaisance, c'est la bienfaisance entre les serviteurs et les gens. C'est-à-dire que tu dois être bienfaisant envers les gens. Et ce, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en étant bon avec les bienfaisants, en pardonnant à ceux qui sont malfaisants envers toi, en faisant des aumônes, en offrant de la nourriture, en prononçant de bonnes paroles, et toute autre forme de bienfaisance envers les gens. C'est sur ceci, sur la bienfaisance, que tu dois baser l'ensemble de tes relations avec les gens. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes frères et sœurs, que ce soit avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes voisins, ou toute autre personne, tu dois faire preuve de bienfaisance comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et celui qui base ses relations avec les gens sur la bienfaisance, alors il vivra heureux ici-bas, inshallah. Car il ne sera injuste envers personne. Il ne lésera personne. Et les gens, ils aiment qu'on se comporte de cette manière avec eux. Et s'il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sincèrement pour Allah, recherchant à travers cette bienfaisance la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera aussi heureux dans l'au-delà, inshallah ta'ala. La troisième sorte de bienfaisance, c'est la bienfaisance entre le serviteur et les animaux. Et ce, en les nourrissant, en les abreuvant, en les soignant s'ils sont blessés ou malades, bien sûr, si ce n'est pas un animal nuisible. Et si c'est un animal nuisible, alors la bienfaisance, elle consiste à le tuer convenablement, sans le faire souffrir. Et cette bienfaisance envers les animaux, elle est valable même pour le chien, s'il n'est pas nuisible. Car sous prétexte de l'impureté du chien, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent lui causer du mal, en le frappant ou autre, et ceci est interdit en islam. Et ça, c'est important de le rappeler aux enfants. Le musulman, il est bienfaisant envers les animaux. On ne jette pas de cailloux sur les animaux, on ne les frappe pas et on ne les fait pas souffrir. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'après Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'un chien était sur le point de mourir de soif et qu'il tournait autour d'un puits, une fornicatrice parmi les enfants d'Israël le vit. Elle enleva alors sa chaussure et l'abreuva. Elle fut alors pardonnée par cet acte. » Vous vous rendez compte? Elle a commis un des péchés les plus graves après le shirk, après le polythéisme. Mais sa bienfaisance envers ce chien, elle lui a valu quoi? Elle lui a valu le pardon, subhanallah. Ceci nous prouve donc l'importance pour le musulman d'être bienfaisant envers les animaux. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de faire preuve de bienfaisance lorsque l'on tue une bête qu'il est permis de tuer, et ce en faisant cela de la meilleure manière, sans la faire souffrir comme on l'a dit précédemment. Et on en déduit donc nécessairement un quatrième bénéfice qui est quoi? L'interdiction de torturer les animaux ou de les faire souffrir d'une quelconque manière. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une femme fut châtiée à cause d'un chat qu'elle enferma jusqu'à ce qu'il meure. Et elle entra alors au feu à cause de cela. Elle ne l'a ni nourrie ni abreuvée lorsqu'elle l'a enfermée, et elle ne l'a pas laissé manger les petites bêtes de la terre. » Et ce hadith, Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, mes frères, il comporte une menace sévère à l'égard de ceux qui sont malfaisants envers les animaux. Et ce hadith, il nous montre aussi l'importance d'en prendre soin, c'est-à-dire de prendre soin de ces animaux en les nourrissant et les abreuvant si on les a enfermés. Car à la base, l'animal, il trouve sa subsistance dans son milieu naturel. Mais si tu l'enfermes, alors tu dois le nourrir. Ceci est obligatoire pour toi. Quel que soit cet animal, que ce soit un chat, ou même un oiseau dans une cage, ou un poisson dans un aquarium, ou tout autre être vivant. Si tu l'as enfermé, alors il t'incombe de le nourrir. Et si tu le délaisses et qu'il meurt de faim, alors tu entres sous la menace mentionnée dans ce hadith et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. J'insiste sur ce point car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont négligents à ce sujet. Ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont en enfermant un animal. Il achète un oiseau ou un poisson pour faire plaisir à ses enfants. Après, il part en voyage. Il abandonne l'animal jusqu'à ce qu'il meure de faim ou de soif. Et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit donc prendre en considération ces hadiths et les mettre en pratique, incha'Allah ta'ala. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'ordre d'accomplir le sacrifice convenablement. Et le sacrifice, il est accompli convenablement en remplissant les conditions légiférées pour le sacrifice. Et ces conditions sont les suivantes. Premièrement, l'aptitude du sacrificateur, c'est-à-dire qu'il soit doué de raison et qu'il soit de ceux dont le sacrifice est licite, c'est-à-dire qu'il soit musulman ou kitabi, c'est-à-dire qu'il fasse partie des gens du livre, qu'il soit juif ou chrétien. Donc si le sacrificateur est un idolâtre, ou si c'est un bouddhiste, ou si c'est un athée, alors la bête qu'il sacrifie, elle n'est pas licite, même s'il remplit les autres conditions. De même que la bête qui est sacrifiée par un apostat, elle n'est pas licite, même s'il s'affilie à l'islam. Donc celui qui ne prie pas, la bête qu'il sacrifie, elle n'est pas licite, car il n'est ni musulman, ni kitabi. Il n'est ni musulman, ni il fait partie des gens du livre. Et quelle est la preuve que la bête sacrifiée par les gens du livre est halal? Quelle est la preuve que la bête sacrifiée par les gens du livre est licite? La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 5 de Surat al-Ma'ida, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Et la nourriture des gens du livre vous est permise. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, leur nourriture, c'est ce qu'ils ont sacrifié. Ceci est donc la première condition. Deuxièmement, que l'ustensile soit un ustensile avec lequel il est permis d'égorger. Et cela désigne tout ce par quoi on fait couler le sang, qu'il soit en fer, en argent, en pierre ou toute autre matière. À partir du moment où c'est un ustensile tranchant et qu'il fait couler le sang, alors cela est permis à l'exception de deux choses, qui sont les dents et les ongles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela dans un hadith. Troisièmement, parmi les conditions pour accomplir le sacrifice convenablement, le fait de faire couler le sang en coupant les deux veines jugulaires, qui sont les deux grosses veines qui se trouvent au niveau de la gorge. Et est-ce qu'il est suffisant de couper seulement les deux veines ou bien faut-il tout couper? Car il y a quatre choses à ce niveau. Il y a les deux veines jugulaires, il y a l'œsophage, qui est le conduit par lequel passe la nourriture et la boisson, et il y a le pharynx, qui est le conduit par lequel passe l'air. Donc est-ce une condition de couper ces quatre choses, ou bien suffit-il de couper les deux veines jugulaires? La réponse est que si tu coupes ces quatre choses, alors cela est mieux, et cela est plus sain. Mais si tu coupes seulement les deux veines, alors l'avis authentique est que cela est suffisant, et que la bête est licite, incha'Allah ta'ala. Par contre, si tu ne coupes que l'œsophage et le pharynx, sans couper les veines, alors l'avis authentique est que la bête est illicite et n'est pas permis de la manger. Et ici, il y a une autre question. À quel niveau du cou doit-on couper? Ou en d'autres termes, est-ce une condition de couper au milieu du cou? La réponse est que ce n'est pas une condition. L'essentiel est que ce soit coupé au niveau du cou, peu importe que ce soit en haut, en bas ou au milieu. Ceci n'a pas d'importance et ce n'est pas une condition. Quatrièmement, parmi les conditions du sacrifice, il y a le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'égorgement, et ce en disant quoi? En disant Bismillah. Donc si un homme égorge une bête sans mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette bête est illicite. Et ce que le sacrificateur soit musulman ou qu'il soit juif ou chrétien. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 121 de Surat al-An'am, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Le verset, il est donc général et il englobe toute bête sur laquelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été prononcé lors du sacrifice. Que ce sacrificateur soit musulman ou qu'il fasse partie des gens du livre et qu'il soit juif ou chrétien. Et qu'en est-il de celui qui a oublié? Au moment d'égorger la bête, il a oublié de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la viande de cette bête est licite ou bien est-elle illicite? La réponse est que sa viande est illicite, comme le prouve le verset que l'on vient de mentionner. Et l'oubli, ce n'est pas une excuse qui décharge de la condition. À titre d'exemple, si un homme prie en état d'impureté, il a oublié de faire ses ablutions, quel est le jugement de sa prière? Sa prière, elle est invalide, même s'il a oublié. Donc de la même manière, celui qui a oublié de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lors du sacrifice, sa bête est illicite et il n'a pas le droit de la manger. Certains pourraient dire, d'accord, mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condition. Donc si une personne délaisse cela volontairement, sa bête n'est pas licite. Mais si une personne oublie, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit qu'il avait exaucé l'invocation des croyants lorsqu'ils ont dit « Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana » Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. La réponse est que ceci concerne le péché. C'est-à-dire que celui qui a oublié de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de péché pour son oubli comme le prouve ce verset. Cependant, la bête, elle reste illicite et il n'a pas le droit de manger sa viande. Certains pourraient dire que cette viande est illicite, cela pousse au gaspillage et à la perte de cet argent, l'argent dépensé pour acheter la bête. La réponse est que ceci n'est pas du gaspillage, ni de la perte. Car toute chose qui est délaissée par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son délaissement n'est pas une perte, mais c'est plutôt une obéissance à Allah pour laquelle l'homme est récompensé inshallah ta'ala. De plus, il n'y a aucun doute que celui qui se verra interdire sa bête, il n'oubliera plus de prononcer le nom d'Allah, inshallah. La prochaine fois qu'il va égorger, il va être bien attentif à cela. Et il va bien prononcer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces conditions sont donc les quatre conditions qui doivent impérativement être remplies pour que le sacrifice soit valide. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation d'aiguiser la lame du couteau avec lequel on sacrifie. Et ce, car ceci est plus commode pour l'animal, et cela lui évite la douleur. Donc si un homme sacrifie une bête avec un couteau mal aiguisé, est-ce que sa bête est licite ou illicite? La réponse est que sa bête est licite, inshallah. Cependant, il est dans le péché pour ne pas avoir aiguisé sa lame et avoir négligé cet ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et attention, lorsque tu aiguises la lame du couteau, tu ne dois pas l'aiguiser devant l'animal, car ceci va l'effrayer. Il se peut même que l'animal s'enfuit après que tu aies du mal à l'égorger. Donc tu dois faire cela au préalable ou à l'abri de la vue de l'animal. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de tranquilliser l'animal lors du sacrifice et de ne pas l'effrayer. Mais tu dois faire en sorte de l'apaiser et de l'égorger rapidement afin de le délasser et ne pas le faire souffrir par une longue attente dans cet état. Et le mieux pour cela est de ne pas lui attacher les pattes, mais de les laisser libres. Et pour qu'il reste à terre, tu poses ton pied sur lui. Car le fait de lui laisser les pattes libres, cela est plus apaisant pour lui et c'est aussi une façon qui permet au sang de mieux couler. Car lorsqu'il va bouger ses pattes, les mouvements des pattes, cela va faire sortir le sang. Donc tu l'égorges, puis tu le laisses bouger. Car si tu lui retiens ses pattes, tu le fais souffrir en réalité. C'est pour cela qu'il ne faut pas le retenir. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font après avoir égorgé? Ils lui cassent la nuque directement après l'avoir égorgé. Et ils pensent ainsi accélérer sa mort. Mais ceci n'est pas permis, car cela s'oppose à la bienfaisance qui est ordonnée dans ce hadith. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la perfection de la législation de la religion de l'islam, qui est une religion qui englobe tout bien et prévient contre tout mal. Et il fait partie de cela l'ordre d'être bon et bienfaisant et l'interdiction de faire souffrir les animaux lorsqu'on les égorge ou de leur faire du mal d'une quelconque manière. Donc si l'islam appelle à la bienfaisance envers les animaux, alors à plus forte raison, il n'y a aucun doute que l'islam appelle aussi à la bonté et la bienfaisance envers les êtres humains, tout comme l'islam interdit l'injustice envers les hommes, qu'ils soient musulmans ou mécréants. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم